C'est un très beau passage de l'évangile que nous venons d'entendre. L'un des grands évangiles de carême, l'un des grands évangiles aussi de préparation baptismale, car les trois évangiles que nous allons entendre aujourd'hui, dimanche prochain et dans 2 semaines, sont comme autant de pierres miliaires sur le chemin pour nous préparer, finaliser une préparation au baptême. Aujourd'hui, il est question de l'eau vive reçue de Jésus lui-même, l'eau vive de l'Esprit-Saint. Dimanche prochain, à travers le récit de la guérison de l'aveugle-né, il sera question de la lumière. Jésus qui nous fait venir, nous fait passer des ténèbres à la lumière. Et puis, dans 2 semaines, avec le retour de la vie, le retour de Lazare à la vie, il sera question de la puissance de la résurrection de Jésus qui vient renouveler toutes choses. Et ce sont autant de facettes de notre baptême, l'Esprit Saint, la lumière, la vie. Mais peut-être aujourd'hui, je voudrais aborder cet évangile sous l'aspect de la rencontre. Il y a, me semble-t-il, dans ce passage, une très belle pédagogie de la rencontre de Jésus avec une personne, j'allais dire, d'une autre confession, la Samaritaine qui était... Vous savez, les Samaritains, c'était des hérétiques pour les Juifs. Ils s'étaient séparés d'eux. Ils n'avaient comme « Bible », entre guillemets, comme livre saint, que les 5 premiers livres, le Pentateuque. Ils rejetaient tout le reste. Et puis, ils avaient fait leur temple au mont Garizim, en Samarie, donc. Et voilà. Et donc, les Juifs les considéraient comme proportion méprisable. Et ils se haïssaient les uns les autres, si bien qu'il n'était pas rare que les Juifs évitaient de passer par la Samarie pour descendre de la Galilée au nord à la Judée qui est au sud, la Samarie est au milieu. Et on nous a dit dans cet évangile que Jésus, lui, on ne l'a peut-être pas entendu ici, mais c'est dans l'introduction, Jésus a voulu passer par la Samarie. C'est comme s'il avait été téléguidé, si j'ose dire, d'en haut pour rencontrer cette femme. Et cette femme avec qui il parle est elle-même très surprise qu'un juif ose lui adresser la parole. « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire ?» Vous avez entendu. Donc les juifs et les samaritains avaient le moins de rapport possible. Alors, c'est intéressant de rencontrer comment Jésus s'y prend de constater comment Jésus s'y prend pour rencontrer cette femme. En effet, il manifeste vraiment un art consommé de la rencontre pour ouvrir à sa parole et ouvrir à l'évangile. Peut-être vous avez entendu parler à travers les journaux, la radio ou la télévision d'une manifestation qui vient d'avoir lieu à Paris qui s'appelle le Parvis des Gentils. Ça a eu lieu jeudi et vendredi et le pape Benoît XVI en avait pris l'initiative. C'est la proposition de dialoguer entre chrétiens et, comment faut-il dire, indifférents, non-croyants, athées, sans religion, enfin que sais-je, entre chrétiens et autres personnes, dans un respect mutuel. Le parvis des gentils, ça fait allusion à cette portion du temple de Jérusalem qui était le parvis extérieur où les non-juifs pouvaient se présenter, puis ensuite il y avait le parvis des femmes, puis le parvis des hommes, et puis le saint des saints, le parvis des prêtres et le saint des saints. Bien. Alors le parvis des gentils, voilà, c'est un lieu de rencontre, une sorte d'agora où on peut rencontrer tout public, si j'ose dire, et parler religion, parler vie spirituelle, parler foi, parler de Dieu. Et Jésus, dans cette rencontre avec cette femme, va commencer par demander, non pas par lui proposer Dieu, mais par demander humblement. Jésus a soif, il est midi, il fait chaud, il s'est assis auprès du puits, au frais, et il demande « Donne-moi à boire ». Et c'est beau cette demande toute simple de Jésus, et c'est bon de la laisser retentir dans nos cœurs « Donne-moi à boire ». Cette humilité de Dieu qui vient chercher notre réponse, chercher notre présence, chercher notre amour, quêter notre amour, mendier notre amour. Le même mot que Jésus aura sur la croix, « J'ai soif », qui représente bien sûr la soif physique qu'il avait, car il était crucifié, mais en même temps qui est une demande de l'amour de tous les hommes, Dieu qui vient mendier notre amour. Cette importance là de comme direction, j'allais dire, pour le dialogue, c'est-à-dire que nous n'avons pas dans le dialogue avec les non-chrétiens à nous présenter comme des hommes et des femmes bardés de nos certitudes que nous portons avec nous et que nous allons asséner à coups de marteau pour les faire changer d'idée, n'est-ce pas? Mais nous venons dans une rencontre où nous allons pouvoir recevoir de l'autre aussi. C'est important de recevoir ce que l'autre a à nous donner. Certes, nous avons quelque chose nous-mêmes à donner, mais c'est tellement important de pouvoir recevoir de l'autre. C'est tellement important de se dire que celui qui est à côté de moi a quelque chose à me dire, quelque chose à me donner, même s'il n'est pas chrétien, et que l'Esprit de Dieu a mis dans son cœur de belles choses, et que à moi de découvrir ces belles choses et de les recevoir et d'en profiter, et de lui permettre de me les donner, de me les transmettre. Voilà. Une première chose, et puis ensuite on voit bien comment Jésus va peu à peu essayer de faire monter le dialogue en lui parlant de l'eau de l'Esprit Saint, de l'eau qui jaillit en vie éternelle, source jaillissante pour la vie éternelle. Mais on voit bien aussi que le dialogue piétine, si j'ose dire, cette femme n'entend pas, elle comprend pas. Elle vient puiser l'eau tous les jours au puits. Elle dit: ah ben chouette, comme ça j'aurais pas besoin de travailler, de venir puiser l'eau si tu me donnes une eau vive qui jaillit en moi sous forme de source jaillissante. Chouette, ça fait ça de moins à faire. Mais Jésus lui dit: c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment de s'ouvrir à l'Esprit Saint, mais elle ne comprend pas. Voilà. Donc, il y a une méprise. Donc, il ne faut pas que nous nous étonnions de ce décalage, me semble-t-il, dans le dialogue que nous pouvons avoir avec des personnes qui sont non-croyantes, ne pas nous étonner du décalage. Il est normal, et Jésus lui-même en a fait l'expérience, et il l'a accepté. Mais en même temps, pour essayer de le contourner ou bien de le faire disparaître, Jésus a eu cette astuce de brancher cette femme sur la vérité. Et là, il a eu une parole d'autorité que nous pouvons difficilement avoir, mais il lui a dit: va chercher ton mari. On ne voit pas très bien ce que ça vient faire dans la conversation, si ce n'est pour permettre à cette femme de se situer en vérité et d'accueillir de la bouche de Jésus une parole de lumière qui la met en vérité devant lui. Va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Là, tu dis vrai, tu en as eu cinq, celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Voilà. Et d'un dialogue sur l'eau vive que cette femme ne comprenait pas, là, située devant la vérité de sa vie, elle comprend que Jésus est lui-même vérité et que Jésus l'a fait entrer dans une démarche de vérité. Et alors, voilà, elle se sent dévoiler, accueillir en même temps. Jésus ne juge pas, vous savez, c'est comme pour la femme samaritaine, pour la femme adultère, pardon, que les Juifs voulaient lapider. Personne n'était là, moi non plus, je ne te condamne pas, va dire Jésus. Et donc, il n'y a pas de jugement dans la bouche de Jésus. Et puis en même temps, cette femme va quelque part être gênée d'être ainsi en vérité et va faire dériver la conversation vers la religion. Vous avez remarqué ça, quand on rencontre des gens, ils ont toujours des choses à raconter sur la religion. Ils se sont brouillés avec le curé un tel, qui était avant moi, évidemment, hein, mais toujours, il y a eu un problème avec un curé qui, pour le catéchisme, le baptême de l'enfant, a fait un problème, etc. Et puis, ah ben j'ai fait toutes mes communions, et puis, etc. On a toujours des choses à raconter sur la religion. Et cette femme fait dériver le dialogue vers la religion. Est-ce que c'est ici, à Jérusalem, qu'il faut adorer ou au mont Garizim, la colle? Et Jésus va lui répondre: mais c'est pas ça le problème, c'est pas ça le problème. Il faut adorer Dieu dans l'esprit et dans la vérité, dans l'Esprit Saint et dans la vérité de sa parole et dans la vérité de notre cœur qui se place en vérité devant lui. Voilà. C'est ça le plus important, c'est pas le lieu, c'est pas de prier dans une église, c'est pas de prier dans le temple de Jérusalem, c'est que notre cœur soit en vérité devant Dieu et que notre cœur soit habité par l'Esprit de Dieu qui seul peut nous faire adorer, adorer dans l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit en nous, et adorer dans la vérité, en nous plaçant en vérité devant Dieu. Alors voilà, Jésus élude et revient à ce qu'il voulait dire, et puis finalement, il va se dévoiler à cette femme qui lui dit « Mais on attend le Messie », et Jésus lui va dire « Je suis le Messie ». Voilà. On sent qu'ici, on a vraiment l'aboutissement du dialogue qui s'est fait, mais voyez qu'il est passé par la case « Je me place en vérité devant Dieu ». Tant que nous n'acceptons pas de nous placer en vérité devant Dieu, nous nous piétinons dans notre rencontre avec lui et dans notre dialogue avec lui, nous piétinons. C'est pour ça que j'insiste tellement sur le sacrement de réconciliation, et je vous avais dit en commençant le carême, puissions-nous les uns et les autres faire l'effort de vivre pendant notre carême le sacrement de réconciliation, d'aller nous confesser avant les fêtes de Pâques, pour nous situer en vérité devant Dieu et lui dire « J'ai péché contre le ciel et contre toi, comme le Fils prodigue. Voilà qui je suis et j'accueille ton pardon. Je te demande pardon de t'avoir offensé et j'accueille ton pardon. » Et si nous nous situons en vérité devant Dieu, alors nous progressons singulièrement dans notre dialogue avec lui, dans notre rencontre avec lui, à tel point que nous pourrons sentir une telle libération, une telle transformation, que nous aurons envie de la communiquer à d'autres et en appeler d'autres à la partager. Et cette femme va se rendre dans son village et va dire à tout le monde « Venez voir, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit qui je suis. Il m'a tout dit, il ne m'a pas jugé. Venez voir, c'est peut-être le Messie. » Et tout le monde vient et Jésus va passer 2 jours. À partir du témoignage de cette femme, il va passer 2 jours à proclamer l'Évangile. À partir d'une personne, il va pouvoir évangéliser tout le village. Et c'est vraiment quelque chose d'important de nous dire que une rencontre toute simple qui a commencé par un dialogue très ordinaire, « Donne-moi à boire, j'ai soif », aboutit au fond à la conversion de tout un village. Nous ne devons pas douter que Dieu nous donne à nous-mêmes la possibilité d'évangéliser et d'ouvrir les cœurs à sa parole. Vous avez remarqué en première lecture comment les Hébreux qui étaient sortis d'Égypte se plaignaient tout le temps. Ils se plaignent d'avoir pas à manger, ils se plaignent d'avoir pas à boire, et Moïse va frapper le rocher avec son bâton et va en faire sortir de l'eau, et puis il va appeler ce lieu contestation, accusation, défi, car vous avez mis Dieu à l'épreuve, vous l'avez mis au défi en disant « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas ?» Voilà. Et nous ressemblons souvent aux Hébreux à murmurer comme ça, à nous plaindre, et aussi à penser que Dieu est un peu court, et à trembler dans nos affaires en disant « Non, non, j'y arriverai jamais, je peux pas, puis j'ai pas la force. » Puis non, la puissance du Saint-Esprit est en nous, et nous sommes envoyés en mission, et nous pouvons, à partir de paroles toutes simples, ouvrir les cœurs à l'Évangile, à Jésus, à l'Esprit-Saint, qui fera ensuite son travail de conversion. Mais n'oublions jamais, nous sommes envoyés en mission. Il n'y a pas de lieu, partout nous sommes envoyés en mission. Il n'y a pas de lieu neutre pour nous chrétiens. Et partout le Saint-Esprit peut nous interpeller à l'intérieur de nous-mêmes pour dire « Dis une parole à cette personne-là. » Nous devons être en état de témoignage. C'est très important. Moi j'expérimente ça dans mon ministère de prêtre à travers l'accueil. Quelquefois, je reçois des personnes, d'une minute sur l'autre, j'ai devant moi quelqu'un qui a un très grave problème, qui le partage et qui a besoin d'aide et d'aide au discernement. Voilà. Et il faut être en état d'accueillir et de dire quelque chose. Le Seigneur veut se servir de nous, il faut être en état de disponibilité instrumentale, en quelque sorte, pour que le Saint-Esprit puisse agir. Et pour nous, c'est la même chose. Mais voilà, ça commence toujours par de petites choses. C'est pas la peine de vouloir être des prosélytes casse-pieds, collants, qui scotchent les autres. Mais il faut être des gens tout simples, en même temps tout à fait conscients de ce que le Seigneur nous a donné à transmettre, à savoir sa parole de vie éternelle.